Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Démonstration de force dans les quartiers nord de Marseille. Avec une mission, pilonner les points de deal et neutraliser les réseaux des narcotrafiquants dans la cité phocéenne. Emmanuel Macron s'est rendu sur place mardi. Visite surprise dans le quartier de la Castellane où les dealers ont pignon sur rue.
Là, c'est la première d'une série d'une dizaine d'opérations de place nette appelé XXL. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs.
Rien qu'en 2023, 49 personnes ont été tuées dans des règlements de compte à Marseille. Et ces violences, liées au trafic de drogue, se multiplient sur d'autres territoires partout en France. À Rennes, dans un quartier d'habitation, une fusillade à l'arme lourde a éclaté le 10 mars en pleine nuit.
J'ai été réveillée dans les environs de 3 heures. De ma fenêtre, je voyais des flashs.
J'ai entendu les coups de...
Il y a beaucoup de gens qui ont peur.
Ah ben, bien sûr.
Les narcotrafiquants terrorisent et menacent, comme ici au Havre, où 2,7 tonnes de cocaïne ont été saisies lundi. Le premier port de fret de France serait également la première porte d'entrée de la coke dans le pays. Dockers et douaniers se retrouvent en première ligne.
C'est compliqué d'être douanier au Havre aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde rentre vivant à la maison le soir.
Face à une économie parallèle qui générerait en France, toute drogue confondue, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, le ministre de la Justice en appelle à la responsabilité des consommateurs.
Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est l'affaire de tout le monde.
Alors, à Marseille, comme ailleurs en France, les fumeurs de shit et les consommateurs de cocaïne sont-ils complices des narcotrafiquants? Les opérations Place Nette peuvent-elles changer la donne durablement sur le terrain? Comment endiguer les trafics et la criminalité?
Nos trois invités, à commencer par Sonia Fibleuil. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Porte-parole de la police nationale, vous êtes commissaire divisionnaire à Beauvau, n'est-ce pas, à Paris. Donc, et selon vous, l'opération Place Nette, donc, qui a démarré il y a deux jours à Marseille, était nécessaire. Cela permet de déstabiliser le trafic de drogue. Si on laisse faire les trafiquants, c'est inaudible pour les citoyens. À côté de vous, Nelly Bertrand. Bonsoir, madame. Secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Selon vous, il y a un énorme problème de narcotrafic en France, mais cela ne sert à rien d'utiliser une rhétorique guerrière. Cela, selon vous, ne fait pas avancer les dossiers. Et enfin, Jérôme Pierrat, bonsoir. Vous êtes journaliste, bonsoir. Spécialiste du grand banditisme. Votre dernier essai, dernier livre, une histoire du milieu de 1850 à 2000, grand banditisme et crime organisé en France, c'est paru en 2023 à la Manufacture de Livres. Et vous considérez que cette opération marseillaise, c'est de la com, ça ne sert à rien, on ne va pas envoyer les flics dans les quartiers, ajoutez-vous, toutes les semaines. Ce qu'il faut, c'est renforcer les moyens de la police judiciaire, dite la PJ. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour.
22 kilos de stupéfiants ont donc été saisis en 3 jours à Marseille pendant cette opération Place Nette XXL, dont un peu moins de 400 grammes de cocaïne. Sonia Fibleuil, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à davantage dans la saisine de ces drogues.
Alors, sur le bilan global, vous vous arrêtez à quelques chiffres. On peut rajouter effectivement les 145 interpellations, les 102 gardes à vue, les 5 armes, les 8 kilos de cannabis surtout plus de 500 000 euros d'avoir, donc que ce soit en numéraire ou en avoir sur le trafic de stupéfiants. Donc le bilan est beaucoup plus important, évidemment, que les premiers jours, et ne va faire que croître puisque nous avons une opération qui va se dérouler dans le temps et qui va durer, parce que c'est l'idée du XXL dans l'opération, puisque désormais on est contraint de labelliser nos opérations. Et effectivement, ce XXL désigne le fait que nous allons rester plusieurs jours dans le temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une estimation opérationnelle qui réduise la voilure.
Jérôme Pierrat, vous voyez sourire à
ça. J'ai dit jusqu'à ce qu'ils reviennent.
Parce qu'ils sont déjà revenus,
certains sont déjà revenus en partie, puis ils reviendront assez rapidement de toute façon. Donc on va peut-être lancer le débat là-dessus. Mais,
non, mais allez-y,
dites. Non, mais ces opérations temporaires ne sont que temporaires, par nature. Donc ces gens ne vont pas déserter.
Même si on dépêche 800 policiers et gendarmes, plus de magistrats, plus de
policiers. Si on vient tous les 2 jours ou tous les 3 jours, il faut construire un commissariat, ça coûtera moins cher. Ça ça sera plus utile.
Il n'y a pas de commissariat.
Non, il n'y a pas de commissariat. Il y en avait un à la Castagne jusque dans les années 80, 90, puis qui a été supprimé, parce qu'il y en avait dans les quartiers nord, hein, des commissariats, ce qu'on appelait la police de proximité. Ça a été massivement supprimé, retiré. Et donc, non, il n'y a plus de commissariat. Il y a le grand quartier, il y a le grand commissariat des quartiers nord, voilà, celui qui avait été illustré par la BAC Nord, etc. Mais il n'y a pas d'autres. Voilà, il y a des patrouilles comme ça, itinérantes dans ce quartier, c'est tout.
Pourquoi il n'y a pas de commissariat ?
Alors, nous avons parfaitement conscience que dans certains endroits, il peut y avoir une réinstallation des trafics un petit peu plus loin. Pour autant, on arrive à déstabiliser en profondeur les trafics, justement en faisant ces actions répétées sur les points de deal, puisque nous les avons cartographiés en 2020, ils étaient 4000, et ils sont plus que 3000 en décembre 2023, donc il y en a eu un millier. Avec certes beaucoup d'énergie de la police nationale, des policiers pour faire ces opérations, mais les actions répétées et de pilonnage sont véritablement.
Mais il n'y a pas de mais pour avoir un commissariat, c'est trop dangereux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des zones où
c'est
ça.
Ce n'est pas du tout une question de dangerosité, c'est une question de moyens, de déploiement des moyens qui sont présents à Marseille. D'accord. Là, on ne peut pas le nier aujourd'hui.
Nelly Bertrand, ce message de fermeté, néanmoins, il est important par rapport aux populations, que ce soit Marseille ou ailleurs, mais enfin, à Marseille, quand même, c'est 1% de la population française, 20% des règlements de compte. Donc, il y a quelque chose qui était attendu de la part des Marseillais.
Oui. Alors, voilà, justement, vous m'amenez là où je voulais aller, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de trafic de stupéfiants. Et les trafics de stupéfiants, c'est pas uniquement ceux qui sont en première ligne, les consommateurs, les guetteurs, les jeunes sur les points de deal, les nourrices qui stockent la drogue, les mules qui risquent leur vie à importer des produits.
C'est quoi aussi ?
Mais justement, c'est une véritable économie et qui n'est pas si parallèle que ça, parce qu'en réalité, elle vient s'intégrer à l'économie légale et elle reprend les codes de l'économie de marché. Et ça, qu'est-ce que ça implique concrètement ? C'est des vraies dimensions internationales dont il faut tenir compte et ça ne s'arrête pas au trafic de quartier. C'est des organisations qui sont pyramidales. On a entendu que selon l'INSEE, 21 000 ETP, donc équivalent temps plein, seraient employés dans le trafic de drogue, ce qui représente, pour vous donner un ordre d'idée, deux fois plus que le nombre de magistrats en France. Qu'est-ce que ça implique donc, ça implique aussi des sommes qui sont colossales, qui sont brassées.
Mais donc, il faut bien commencer quelque part. Donc, Marseille...
Laissez-moi venir mon idée, parce que... qui entraîne de la délinquance économique et financière massive, dont on entend assez peu parler, avec du blanchiment, de la corruption, de la fraude fiscale. Et ça implique aussi des organisations qui sont extrêmement adaptées à l'économie de marché en réalité. On a des goodies...
On y reviendra tout à l'heure. On va y revenir.
Vous faites un portrait très global.
Vous faites un tableau global, le macro-tableau.
Le contexte. Très concrètement aussi, quel effet ça peut avoir sur le trafic au quotidien ? Eh bien, pas forcément très efficace, si on en croit les premiers concernés. Écoutez ce témoignage d'un trafiquant en détention à Marseille. C'est un témoignage anonyme qui a été recueilli par France Info.
On a tous rigolé derrière la télé. Tous les prisonniers, on a bien rigolé. C'est pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils font leur travail. Et ça ne change pas grand-chose. Ouais, certes, on perd peut-être 10 jours, 20 jours, allez, un mois. Après, quand il n'y a que des petites patrouilles qui font un petit tour, c'est quoi ? C'est 15-20 minutes, après, ils repartent. Avec un peu de chance, ils attrapent le petit charbonneur ou celui qui a la sacoche. Ou voilà, quoi, rien de plus.
Jérôme Pira, il n'exagère pas un peu ? Est-ce qu'en même temps, est-ce que ça ne perturbe rien du tout, ce genre d'opération ?
C'est rigolo, je sais pas. Non, ça perturbe sur le moment, ça fait une perte de chiffre d'affaires. C'est les commerçants, donc ils vont fermer le commerce une journée, deux journées. Alors, il y a des gros chiffres d'affaires à la Castellane, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, effectivement,
par jour.
Il y a toujours. Et ça a un petit impact, mais ça n'aura pas un impact sur la durée.
Ils continuent de sévir derrière les barreaux, véritablement ? Ça existe.
Oui, bon, ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, on nous dit, la mexicanisation. Alors, effectivement,
la mexicanisation,
c'est les magistrats.
Sur le modèle des marques.
Employer ce terme dans la commission sénatoriale en disant il y a une mexicanisation du trafic, etc. Parce que maintenant, les ordres sont donnés depuis prison. Mais ça fait très longtemps que les ordres sont donnés depuis prison. Hein, depuis que le portable existe et qu'il est en cellule, les gens continuent de trafiquer. Donc ça, c'est pas très très neuf, ça n'a jamais rien arrêté. Il y a un indicateur quand même. Tout à l'heure, on parlait de 4000 points de vente, puis 3000. Oui. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. C'est effectivement la tranquillité publique, la sécurité publique. Alors là, pour le coup, 1000 points de vente, ça fait autant d'habitants emmerdés, excusez-moi trivialement, parlant en moins.
C'est important.
Après, il y a un autre indicateur. Est-ce qu'il y a moins de stupes en circulation ? Est-ce que le prix a changé ? Est-ce que c'est plus dur de s'en procurer ? Non, ça veut dire que le marché il est toujours aussi énergique, florissant, que le produit est toujours à disposition, donc que les filières internationales fonctionnent toujours. Donc, Voilà, c'est pour alors, ça que c'est un peu l'écume des jours, cette histoire. C'est la partie visible, celle qui intéresse le politique.
Sonia.
On comprend. Hein.
Quand vous entendez ça.
Fibleuil. Vous vous intéressez à la partie visible, parce qu'on parle des points de deal et on parle d'une opération Placenet. Mmh. Maintenant, il est évident, pour répondre notamment à madame, que nous nous attaquons également au haut du spectre. C'est-à-dire que notre politique, et qui est d'ailleurs pilotée par l'Office anti-stup, l'OFAST, est de connaître extrêmement bien la filière du point de deal jusqu'à l'international, avec des efforts qui sont faits sur l'investigation, y compris sur les investigations liées au trafic de stupéfiants pour s'attaquer à des infractions connexes comme le blanchiment d'argent, avec les groupes interrégionaux de recherche, avec les offices spécialisés sur le blanchiment d'argent international et notamment la grande délinquance financière, pour porter aussi un coup d'arrêt à l'argent, à ce blanchiment qui est évidemment le nerf de la guerre. Le crime ne doit pas payer.
Et aux têtes de pont.
Et aux têtes de pont, également à l'international.
Vous disiez, il y a eu des résultats, une série d'interrogations a eu lieu au sein des deux principaux gangs de Marseille, à l'étranger, notamment au Maroc, très récemment. Donc ça veut dire que le gouvernement prend globalement les choses, de la filière du début jusqu'à la
fin. Bien sûr, je ne suis pas là pour dire que rien n'est fait. Je ne suis pas là pour dire non plus qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. On a vu que dans une récente étude de l'OFDT, que 7,7 milliards étaient alloués à la répression. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Mais ce que je viens dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un constat face à ces moyens, face à tous ces magistrats qui, du parquet jusqu'à l'application des peines, traitent toute la journée des dossiers de trafic de stupéfiants, c'est que la consommation a explosé, c'est que la production de drogue a explosé, et c'est que les assassinats et des crimes très graves en lien avec le trafic de stupéfiants ont eux aussi explosé. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un échec de cette politique-là, et cet échec, il est dû à quoi ? Je ne dis pas que rien n'est fait du côté de l'investigation, je dis par contre qu'il y a énormément de moyens qui sont gaspillés, pas totalement gaspillés, c'est pas vrai, parce que évidemment que...
Comme quoi, ça doit... gaspillé
dans qui sont en fait... La lutte contre le trafic est pour nous polluée par la pression statistique dont sont victimes les policiers en premier lieu, par le discours électoraliste qui vise, comme disait tout à l'heure monsieur, à rendre toujours plus visible la lutte et qui en fait ne règle pas les difficultés. Et je rejoins complètement ce qui a été dit sur le fait que ce sont les fusibles qui sont prioritairement interpellés. On se gargarise d'un nombre très important d'interpellations, mais où sont mises ces personnes ? En prison, où le trafic continue et qui sont des réelles écoles du crime. Parce que quand ils ressortent, ils recommencent encore plus.
Juste
donc, in fine, l'objectif de la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est la santé publique et l'ordre public, ne sont pas remplis.
Non, mais une réaction sur les pressions statistiques auxquelles vous seriez soumis, déjà, avant d'évoquer avec vous une loi qui se prépare à Bercy.
Nous, on ne parle pas de politique, on parle de stratégie. Ouais. L'OFAST a développé une stratégie, et c'est assez inédit, puisque c'est la première fois qu'on a un office anti-stup qui va piloter l'intégralité de cette stratégie. Cette stratégie, elle est certes dans la répétition le pilonnage des points de deal, mais également dans le partage de renseignements, dans la coordination des acteurs, et c'est cette coordination des acteurs qui est inédite quant à présent, parce qu'il y a un chef de file unique qui est l'Office anti-stup. Donc on arrive à se coordonner, et d'ailleurs on a des beaux résultats internationaux à l'international grâce à cette coordination.
Il y a une loi qui se préparait à Bercy pour éventuellement geler les avoirs des gros trafiquants. Est-ce que ça, c'est efficace ?
Bah, de toute façon,
Jérôme Pierra, est-ce
que c'est nécessaire ? Le nerf de la guerre, on l'a dit, c'est l'argent. Hein. Donc s'il n'y a plus d'intérêt à faire ce business, effectivement, il va s'arrêter de lui-même. Donc oui, il faut taper sur l'argent parce que ça reste une... Alors il y a une partie qui va partir en liquide, etc., en dépenses, qui sera de
toute façon
immatérielle ou en tout cas pas
ça rapporte 4 milliards par an.
Mais pour les têtes de pont, oui. Alors après, c'est compliqué parce qu'il y a des mécanismes de blanchiment qui sont assez complexes, de compensation. Enfin, on va pas entrer.
Mais pourquoi c'était pas technique jusque-là ? Enfin, quand on est surpris de savoir qu'on peut pas geler les avoirs financiers des grands trafiquants quand ils sont identifiés. Alors,
excusez-moi, mais depuis 2010, notamment depuis la loi Warsmann, on peut tout à fait saisir au stade de l'enquête ce qui est confiscable au stade de la justice. Donc oui, on a depuis 2010 particulièrement une législation qui est très offensive, et notamment en matière de trafic de stupéfiants, sur la saisie des avoirs criminels.
Je vais rejoindre madame là-dessus. Juste les progrès qui ont été faits en matière de saisie et de confiscation ont été énormes depuis la création de la GRASC, notamment, mm-hmm. qui est l'organe central qui est censé gérer ces saisies et ces confiscations des avoirs criminels. Mais il y a encore énormément de travail à faire pour rendre plus effectif ce mécanisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une proposition de loi qui est en cours. Mm-hmm. Et ce qu'on voit, nous, en tant que magistrats, c'est que c'est des contentieux qui sont extrêmement techniques. Identifier les avoirs criminels, les comptes à l'étranger, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement minutieux. On manque en fait de moyens qui sont alloués à cette délinquance économique et financière-là, à cette criminalité organisée, parce qu'on utilise énormément, énormément de moyens à des contentieux de moyenne et petite délinquance, à des comparutions immédiates. Et il y a une déperdition d'énergie qui est vraiment très dommageable, parce que la vraie lutte, elle est là.
Alors, la lutte contre les narcotrafiquants semble se faire dans le respect de l'état de droit en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. On va parler de ce qui se passe au Salvador.
Oui, exactement. Anna. Les gangsters aujourd'hui se cachent comme des rats et ce n'est pas une insulte pour les rats. Ça, ce sont les mots du président fraîchement réélu, Nayib Bukele, l'homme qui, en 18 mois, a littéralement nettoyé le Salvador des gangs responsables du trafic de drogue. Aujourd'hui, le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas, 2,4 pour 100 000 habitants, contre 106,3 en 2015. Alors, il a décrété l'état d'urgence en 2022 et depuis, eh bien, les militaires ont été déployés dans tout le pays pour arrêter absolument tous les criminels de la drogue, des trafiquants jusqu'aux consommateurs, avec des opérations très musclées, encerclement des villes, fouille des maisons une par une, contrôle routier, les hommes obligés de se mettre torse nu pour prouver qu'ils n'ont pas de tatouage qui soit un signe d'appartenance à un gang. Bref, 74 000 personnes ont déjà été arrêtées et immédiatement emprisonnées. Le gouvernement Bukele a d'ailleurs voté une loi au mois de juillet qui permet au système judiciaire de juger 900 criminels à la fois dans le but de condamner massivement et plus rapidement. Et ces gangsters, eh bien, ils se retrouvent ensuite dans cette prison flambant neuf, le centre de confinement du terrorisme, on le voit ici, dans des conditions de détention proches de la torture. C'est la plus grande prison d'Amérique. Et quand ils arrivent là, eh bien, ils savent pertinemment qu'ils passeront certainement leurs vieux jours dans cette prison. Les peines de prison pour appartenance à un gang sont passées de 9 à 45 ans, Jérôme Pierrat. Dans une tribune qui est parue dans le JDD samedi dernier, le très droitier Institut pour la Justice a appelé à s'inspirer de l'exemple du Salvador pour lutter contre le trafic de drogue
et puis on règle le problème. Enfin, je veux dire, c'est une question de régime politique. Soit on opte pour la dictature et à ce moment-là, on arrête un peu au hasard de manière arbitraire. Voilà, encore plus aux Philippines, le problème était moins prégnant qu'au Salvador. Ils ont été un peu plus loin. Donc voilà, c'est un choix de politique et de vie. Si vous avez envie de vivre dans une dictature militariste qui arrête à l'aveugle les gens, ça peut marcher effectivement. Là, si vous arrêtez tout le monde, vous les mettez tous au trou en les torturant, forcément ça va dissuader un certain nombre. Enfin, après on voit aussi que de toute façon le problème, après c'est égoïste pour le Salvador parce que ça va se déplacer dans les pays alentours, etc. On voit la situation de l'Équateur, on voit la situation, etc. Donc de toute façon c'est ça le problème du trafic de drogue, c'est que on n'arrive pas à le supprimer, on le déplace.
Et ben c'est ça.
On le déplace toujours.
L'impression que c'est un puissant.
Bah oui, parce que personne n'a jamais gagné la lutte contre le trafic
c'est
ce de drogue.
En même temps, c'est très désarmant ce que vous dites quand même. Vous dites que la guerre contre la drogue, je vous cite, n'est pas gagnable parce qu'en effet, Sonia Fiebig, on a l'impression qu'ils sont toujours plus rusés aujourd'hui la drogue. Elle se deal pas sur les points de deal, et je pense que les magistrats le constatent, ça se fait par la poste, ça se fait par des moyens qui sont très difficiles à contrer.
Ça se fait sur deux terrains, sur Internet. Le point de deal, le territoire, parce que ça reste des infractions très territorialisées. Et la preuve en est, c'est qu'il y a des règlements de compte sur les points de deal et qu'il y a, on l'a constaté, des
49
équipes,
en 2023 à Marseille.
Des équipes, effectivement.
Mortel.
49 en 2023 l'année dernière. Mortel. Et qui, des équipes qui se déplacent d'une ville à l'autre pour récupérer et reconquérir ces territoires, y compris de Paris à Marseille ou de Marseille à Nîmes, à Avignon, etc. Donc il y a une forte mobilité de ces équipes. Donc il y a une lutte territoriale classique sur lesquelles on intervient avec ces actions répétées, premièrement. Deuxièmement, nous avons une lutte également numérique à mener. Parce que il y a, et vous l'avez dit, l'utilisation de réseaux sociaux, de messages cryptés. On l'a vu avec de très belles affaires qui ont été réalisées par la police judiciaire avec l'OFAST et l'Office anti-cyber sur cybercriminalité, sur SkyECC par exemple, ou Encrochat, qui sont des dossiers dans lesquels on a réussi à craquer des messages cryptés qui étaient utilisés par les stupéfiants. Et l'utilisation des réseaux sociaux qui vont avec la caractéristique de l'ubérisation de ce marché totalement débridé, totalement libéral, qui est géré sur les stupéfiants. Donc on a plusieurs plans de lutte et nous devons être à la fois sur tous les terrains.
Jérôme Pierrat, une alliance portuaire européenne s'est mise en place. C'est important vu le volume considérable de trafic et l'augmentation du volume, plus 102% au Havre. On ne parle même pas de Valence en Espagne, on ne parle même pas du Nord, Rotterdam-Anvers. C'est important.
Oui, parce qu'on revient à la discussion qu'on avait à l'instant des gens qui tournent. C'est-à-dire qu'avant, on allait à Anvers et à Rotterdam massivement, comme maintenant le coup de projecteur est mis sur ces ports-là. On l'a vu avec les histoires de ministres des Pays-Bas, de journalistes tués, compagnie. Donc ça a pris cette macro-mafia dont tout le monde parle, là, qui apporterait des tonnes de cocaïne via ces ports. Évidemment, ça déporte le trafic, donc ça commence à impacter les ports français. Alors d'abord le Havre, plus gros, et puis que ça fait 80% des saisies portuaires. Mais là, on commence à voir le port de Saint-Nazaire, on commence à voir le port de Brest, on commence à voir. Et ça va, il y a des dizaines de ports en France qui sont possibles à surveiller que le Havre.
Efficace, ça va être efficace.
Oui, alors il faut ça parce que justement pour éviter que je retombe sur mes pattes, c'était pour éviter que ça ne tourne comme ça indéfiniment en Europe. Donc effectivement, il faut attaquer sur tous les fronts. Mais là, on voit bien que encore une fois. Maintenant, on a le drop-off, par exemple. C'est-à-dire, le drop-off, c'est au lieu d'arriver jusqu'au port, vous balancez à l'eau. Avec le GPS qui donne les centaines de kilos de coke qu'on a sur les
mais
plages.
Mais on a très peu parlé, Nelly Bertrand, tout de même, des consommateurs. Ce que le garde des Sceaux a dit, Éric Dupond-Moretti, celui qui fume son pétard, je répète, le samedi, ce pétard-là, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Est-ce que le consommateur est complice? Est-ce qu'on ne s'y attaque pas suffisamment?
Voilà, mais merci de poser cette question, parce que justement, je pense qu'on part par le mauvais bout en essayant de rentrer dans une guerre contre le trafic de stupéfiants. On voit bien que la répression, la politique répressive, ça fait 50 ans qu'on la mène, y compris à l'égard des consommateurs, et ça fait 50 ans qu'elle ne fonctionne pas. Au contraire, la situation empire.
Donc, on pensait que vous alliez dire qu'il faudrait une pédagogie vis-à-vis des 5 millions de consommateurs de drogue.
Voilà, donc il y a un moment où il faut avoir une approche en termes de santé publique, arrêter de stigmatiser les consommateurs.
Pas de sanctions.
Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Arrêter l'approche répressive et aller dans des politiques publiques de prévention, de réduction des risques, de prise en charge sanitaire et c'est comme ça qu'on va réussir à faire baisser la consommation. On est d'accord que s'il y a offre, c'est qu'il y a demande. Mais l'approche répressive ne marche pas, voire elle est contre-productive parce qu'elle ne permet pas une prise en charge adaptée des personnes qui sont en prise à des problématiques addictives.
Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, je réponds là-dessus.
Les deux sont compatibles?
Juste en rebondissant avant, pour terminer sur ce que disait monsieur, sur les ports, il y a 90 millions de containers. Dans le port du Havre, par exemple, il y en a entre 3 et 10% qui sont contrôlés. Donc, effectivement, il y a un afflux massif.
Et sur la sanction. Sur la sanction.
Et différentes routes qui sont arrivées. Oui. Sur la sanction, alors, la police nationale est là pour faire son travail, c'est-à-dire pour arrêter les trafiquants. Nous avons, la France a choisi une politique répressive. Oui. Nous appliquons le choix de la France, évidemment. Sauf que répressive, c'est-à-dire en réprimant par les amendes forfaitaires délictuelles, par exemple, l'usage de stupéfiants, c'est-à-dire qu'on ne met plus en garde à vue, pour être très clair pour vos auditeurs, on ne met plus en garde à vue quelqu'un avec le pétard du samedi soir. D'accord. Pour reprendre la phrase. Donc on est là pour appliquer cette législation, puisque c'est le cas. Non. Pour autant, un équilibre des deux, évidemment...
Et vous l'appelez de vos voeux.
Nécessaire, voilà. Bien sûr. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Hein. La police nationale fait de la répression comme de la prévention.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Oui, nous aurons l'occasion d'en reparler vraisemblablement. Merci encore.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles. Et partagez le podcast avec vos proches.